Hey, salut les amis! Bienvenue sur Paris au clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisauclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reviens aujourd'hui avec un nouvel épisode d'histoire. Je vous invite à faire un grand voyage dans le temps avec moi. Je vous emmène vers des temps très anciens et obscurs, vers une période mal connue qui a une mauvaise réputation. Cette période, c'est la période des rois mérovingiens. Alors, qui sont les Mérovingiens? En quelques mots, c'est une famille d'origine germanique. Plus précisément, ce sont des Francs. Ils règnent sur le territoire qui deviendra plus tard la France. Et ils règnent sur ce territoire du 5e au 8e siècle, donc pendant environ 250 ans. C'est une grande famille de rois. On parle de la dynastie des Mérovingiens. Et en fait, vous connaissez déjà un roi mérovingien. Parce que dans un épisode précédent, je vous ai parlé de Clovis. Et oui, Clovis est un roi mérovingien. Et le nom des Mérovingiens vient de Mérové. Mérové, c'était le grand-père de Clovis. Comme vous allez le voir, l'histoire de cette famille est très mouvementée. Violence, trahison, meurtre, c'est le quotidien de cette famille royale. Nous allons donc voir aujourd'hui en détail qui étaient les rois mérovingiens. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que j'ai écrit un e-book qui s'appelle French Slang, 70 expressions familières pour mieux comprendre les films et les séries en français. Vous pouvez télécharger cet e-book gratuitement sur mon site parisauclock.com. En téléchargeant cet e-book, vous allez vous abonner à ma newsletter dans laquelle je donne tous mes meilleurs conseils pour apprendre le français. Dans la prochaine newsletter, je parlerai de 3 séries françaises que j'ai vues récemment et que j'ai bien aimées. Vous trouverez toutes les informations sur mon site parisauclock.com. Revenons maintenant à nos Mérovingiens. Nous allons commencer par faire un petit résumé de l'épisode précédent. Dans le dernier épisode d'Histoire, je vous ai parlé de Clovis, qui est considéré comme le premier grand personnage de l'histoire de France. Vous vous souvenez que Clovis est un chef franc de la fin du 5e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, la France n'existe pas encore. Le territoire occupé aujourd'hui par la France s'appelle la Gaule. La Gaule fait partie de l'Empire romain. Les habitants de la Gaule sont majoritairement des Gallo-Romains. Cette époque, le 5e siècle, est une période de grande confusion pour la Gaule. L'Empire romain d'Occident est en train de s'effondrer, en train de perdre sa puissance. Des peuples germaniques en profitent et viennent s'installer en Gaule. Il y a les Visigoths dans le sud-ouest, les Burgondes à l'est et les Francs dans le nord. Les Romains appellent ces peuples les barbares parce qu'ils ne parlent ni grec ni latin. Parmi ces peuples barbares, il y en a un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce sont les Francs. Ils ont donné leur nom à la France. Clovis est donc le chef des Francs. Il fait la guerre aux autres peuples barbares et il réussit à agrandir considérablement son territoire en Gaule. À la fin de sa vie, il règne sur un territoire qui ressemble plus ou moins à la France d'aujourd'hui. Clovis est aussi connu pour être le premier roi franc à s'être fait baptiser. Les historiens considèrent le baptême de Clovis comme l'acte de naissance symbolique de la France. Vers 500 après Jésus-Christ, Clovis décide de se convertir au christianisme. Cette conversion l'aide à agrandir et unifier son territoire. Petit à petit, les Gaulois et les Francs vont former une seule et même nation, le royaume des Francs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé après la mort de Clovis. C'est parti ! Clovis meurt en 511. Il laisse un grand territoire à ses fils. Ce territoire ne s'appelle pas encore la France, il s'appelle maintenant le Royaume des Francs. Le problème, c'est que ce grand territoire doit être partagé entre les quatre fils de Clovis. C'est la coutume chez les Francs. En effet, quand un roi franc meurt, son territoire n'est pas transmis dans son ensemble à un seul héritier du trône, mais il est partagé, découpé entre ses différents fils. Et ce mode de succession va causer beaucoup de problèmes dans la vie de cette famille royale. La famille des rois mérovingiens reste au pouvoir pendant environ 250 ans. Et pendant 250 ans, l'histoire va se répéter. Les différents descendants de Clovis vont se faire la guerre, vont se battre, vont s'entretuer pour avoir plus de terres et de pouvoir. Quand le deuxième fils de Clovis meurt en 524, ses frères n'hésitent pas à faire assassiner ses enfants pour récupérer le territoire. Vous voyez un peu l'ambiance dans la famille. Mais la situation va devenir encore plus violente à l'époque des petits-fils de Clovis. Une véritable guerre civile va déchirer le royaume des Francs. C'est l'histoire de la guerre des Rennes. La guerre des Rennes, c'est une histoire de vengeance et de rivalité. Le dernier survivant des fils de Clovis s'appelle Clotaire. Petit à petit, Clotaire a réussi à récupérer les territoires de ses frères et à reconstituer le territoire de son père, le territoire de Clovis. quand Clotaire meurt, il y a un nouveau partage du territoire entre ses fils. Et c'est la même histoire qui recommence. Les fils de Clotaire vont se faire la guerre pour récupérer plus de territoire. Les relations sont particulièrement tendues entre deux frères, Sigebert et Chilpéric. Sigebert et Chilpéric sont mariés avec deux sœurs, les princesses Brunehaut et Galsvint. Galsvint est assassiné quelques mois seulement après son mariage et son mari Chilpéric se remarie très rapidement avec une autre femme qui s'appelle Frédégonde. La reine Brunehaut accuse alors Chilpéric et Frédégonde d'être responsable du meurtre de sa sœur. Et c'est le point de départ d'une guerre civile qui va durer 45 ans et qui va déchirer le royaume des Francs. Les deux reines, Brunehaut et Frédégonde, se détestent. Elles deviennent des rivales. Pour elles, tous les coups sont permis pour mettre leurs enfants sur le trône du royaume des Francs. Cette guerre se termine en 613 par la victoire du camp Chilpéric-Frédégonde. En effet, c'est le fils de Chilpéric et Frédégonde, Clotaire II, qui récupère le pouvoir sur l'ensemble du royaume franc après avoir fait torturer et assassiner la pauvre reine Brunehaut. Après tant d'années de guerre et de chaos, la situation va un peu s'améliorer avec le règne de Dagobert. Dagobert est le fils de Clotaire II et l'arrière-arrière-petit-fils de Clovis. Dagobert est un roi très connu en France aujourd'hui parce qu'il y a une chanson que tous les enfants français connaissent. Cette chanson s'appelle « Le bon roi Dagobert ». La chanson se moque gentiment du roi Dagobert parce qu'il a mis sa culotte à l'envers. Il a mis son pantalon dans le mauvais sens. C'est son ami, le grand Saint-Éloi, qui lui dit de remettre son pantalon dans le bon sens. Cette chanson nous donne l'image d'un roi bon, le bon roi Dagobert, et aussi d'un homme distrait. Distrait, c'est absent-minded. Il est distrait puisqu'il a mis sa culotte à l'envers. Dagobert a une image plutôt sympathique dans la culture populaire. Mais revenons à notre histoire. Les années de guerre civile ont beaucoup affaibli le pouvoir royal. À cette époque, le royaume des Francs est partagé en trois grandes régions, l'Austrasie, la Neustrie et la Burgondie. Chacune de ces régions est administrée par un personnage très important qui s'appelle le maire du palais. The mayor of the palace. Il y a donc un roi et trois maires du palais. À l'origine, le maire du palais est l'intendant du roi. Il est chargé des affaires domestiques du palais. Et au début, il est nommé pour une période déterminée. Mais petit à petit, les maires du palais deviennent de plus en plus puissants. ils sont finalement nommés à vie et transmettent leur charge à leur fils. Le père de Dagobert, Clotaire II, aimerait un état central puissant, mais il est forcé de maintenir les trois régions indépendantes avec les trois maires du palais. Quand Dagobert devient roi des Francs, à la mort de son père, puis à la mort de son frère, il va tout faire pour renforcer le pouvoir royal. Avec l'aide de ses conseillers, il se lance dans une grande politique de recentralisation du pouvoir. Il veut reprendre le pouvoir aux maires du palais et aux grandes aristocraties locales. Dagobert va notamment réformer la justice. Il se rend compte que le système judiciaire, géré par la noblesse locale, ne fonctionne pas bien. Il y a de grandes injustices. Il fait des réformes, il crée des institutions, il se déplace dans tout le royaume. Il veut que le système judiciaire soit plus juste pour les petites gens et qu'il soit le même dans l'ensemble du royaume des Francs. On retrouve ici l'image du bon roi Dagobert qui veut aider les plus faibles. Et en protégeant les petites gens, il consolide aussi le pouvoir royal. Dagobert renforce également les liens du royaume avec l'Église. Il accorde par exemple de nombreux dons à l'abbaye de Saint-Denis en région parisienne. Il autorise les moines à organiser une grande foire dans la ville et à garder les bénéfices de cette foire. Une foire, c'est fair en anglais. Quand il meurt en 639, Dagobert est enterré à Saint-Denis. Il est le premier roi à être enterré à Saint-Denis. Et tous ceux qui se succéderont sur le trône de France seront ensuite enterrés à Saint-Denis. Lors de votre prochain voyage à Paris, vous aurez peut-être la curiosité d'aller visiter l'abbaye de Saint-Denis. C'est donc là que tous les rois de France ont été enterrés. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont plus là, puisque pendant la Révolution française, les révolutionnaires ont ouvert toutes les tombes et ont détruit les restes des rois de France. Aujourd'hui, on se souvient de Dagobert comme un roi de justice et de piété, qui a réussi à réunifier une dernière fois le royaume des Francs. Le règne de Dagobert est en effet considéré comme l'un des derniers moments de puissance de la dynastie des Mérovingiens. À la mort de Dagobert, la même histoire se répète encore. Le territoire est divisé entre ses fils et le pouvoir royal recommence à s'affaiblir. Les maires du palais reprennent le pouvoir. Et en fait, le pouvoir royal va tellement s'affaiblir que les rois mérovingiens qui succèdent à Dagobert sont appelés les rois fainéants. Fainéant, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous regardez dans le dictionnaire, vous verrez que fainéant signifie paresseux, lazy en anglais. Mais ici, ce n'est pas exactement ça. Fainéant, cela signifie qui ne fait rien. Les rois qui se succèdent après Dagobert sont souvent très jeunes et ils ne restent pas très longtemps au pouvoir. Ils n'ont donc pas le temps d'accomplir de grandes choses. D'autant plus que les maires du palais ont récupéré le pouvoir et règnent à leur place. Pour le dire simplement, les maires du palais font tout, les jeunes rois mérovingiens ne font rien. Les maires du palais vont devenir tellement puissants qu'ils vont finir par écarter complètement les mérovingiens du pouvoir et ils vont se proclamer roi des Francs à leur place. Ce sera le début d'une nouvelle famille royale, la dynastie des Carolingiens. C'est en 751 que le maire du palais, Pépin le Bref, prend le pouvoir et devient le premier roi carolingien. Il y a un roi carolingien très célèbre que vous connaissez peut-être, le roi Charlemagne. Et justement, le nom de roi fainéant a été donné au successeur de Dagobert a posteriori par le biographe de Charlemagne au 9e siècle, donc à peu près 200 ans plus tard. Il donne une mauvaise image aux Mérovingiens pour légitimer la prise de pouvoir des Carolingiens. Il explique que les Mérovingiens ne faisaient rien. Ils ne faisaient plus de réformes. Ils se déplaçaient sur des chars tirés par des bœufs. Un bœuf au singulier, des bœufs au pluriel, c'est ox en anglais. Et cette image déformée est reprise beaucoup plus tard dans les livres d'histoire du 19e siècle. On caricature ces derniers rois mérovingiens. On les imagine dans des lourds chars couverts de coussins, traînés lentement par des bœufs, se promenant ici et là dans leur royaume, sans but précis. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les Carolingiens ont réussi à prendre le pouvoir aux Mérovingiens. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription sur mon site parisoclock.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Avec chaque post, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour vous aider à mieux comprendre la langue et la culture française. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur mon site ou sur Instagram. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et comme je le dis souvent, ce sont vraiment vos commentaires qui me motivent et qui m'encourage à continuer d'enregistrer de nouveaux épisodes. Allez, à bientôt les amis !